Vivre heureux, vivons côtier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quel choix, quelle chance de vous retrouver en ce samedi de printemps pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons côtier.
Allez, danse, danse, viens dans mes bras. Allez, tourne, tourne, reste avec moi. Allez.
Alors, bien, les temps sont un petit peu plus ensoleillés et bleus. Et pour cette émission, on a eu envie cette fois-ci de pas vous coacher, mais de vous présenter un roman qui nous a beaucoup touchés, parce que c'est un roman très émouvant, dont le titre d'ailleurs est très joli, puisqu'il s'appelle Le temps des orphelins. Restez avec nous, ça va être passionnant. Pour vous présenter son roman, nous avons l'insigne honneur et la chance d'avoir avec nous l'auteur, Claude Rodin. Bonjour Claude Rodin.
Bonjour et merci de m'accueillir dans votre, sur votre antenne. Je suis ravi de pouvoir commenter le parfum, le temps des orphelins. Le parfum, c'était un roman antérieur.
Le temps des orphelins. On va voir ça avec vous. Pour vous accompagner aussi, nous avons la chance d'avoir ma chroniqueuse historique, la thérapeute et très judicieuse, Irène Cazenave. Bonjour Irène.
Bonjour tout le monde.
Voilà, vous savez que vous êtes les bienvenus, l'émission est interactive, mais pas aujourd'hui. Claude va nous présenter son roman. On est parti, restez avec nous pour découvrir ce magnifique roman de Claude Rodin. Claude Rodin, rebonjour Claude.
Rebonjour.
Alors Claude, d'abord j'ai aimé le titre, parce que je vais vous dire, souvenir de littéraire, votre titre a quelque chose de pagnol. Hein. Il y a quelque chose de pagnol dans le temps des orphelins, ça fait penser au temps des amours, au temps des secrets, moi qui suis fou de pagnol. Le temps des orphelins, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une grosse part autobiographique, on peut le dire.
Alors on peut dire que le fil conducteur du livre, c'est ma propre vie. La partie fiction est extrêmement mineure dans ce roman. Elle représente en gros entre 10 et 15%, surtout la fin d'ailleurs, les dernières feuilles. Pourquoi c'est un roman? Parce que j'ai écrit en 1986... un roman, c'était pas un roman, un récit autobiographique chez Robert Laffont, et j'ai eu la chance de rencontrer le pape de l'édition de l'époque, parce que c'était une chance, vous savez, il faut avoir beaucoup de chance dans le domaine de l'édition, vous le savez mieux que moi, les probabilités de se faire éditer, c'est une chance sur 10 000. Voilà, il faut le savoir.
On peut compter aussi sur son talent, c'est-à-dire que si on pense qu'on a écrit quelque chose de bon, après il passe parfois à côté de quelque chose de très bon.
Oui, mais l'éditeur reçoit des centaines de manuscrits par mois, à tel point qu'il ne peut pas tous les lire, évidemment.
Évidemment.
Il regarde les 2-3 premières pages pour voir de quelle veine est le livre. Si c'est bon, il va au milieu pour regarder si c'est la même chose, et il le garde. Mais il y a déjà un sur 100 qui est retenu, 99 vont à la poubelle. Donc c'est extrêmement difficile de se faire.
Dans les années 80, il y avait ce récit autobiographique, et là, en 2020 passé, parce que je crois que le roman date d'il y a quelques mois, n'est-ce pas,
Claude? Oui, juin 2022,
là, c'est romancé.
C'est romancé parce que je ne pouvais pas faire un second récit autobiographique, ça ne se fait pas. Donc, en revanche, il s'est écoulé entre 1986, date du récit autobiographique, et la date d'aujourd'hui, il s'est écoulé presque 40 ans. Donc, c'est passé beaucoup de fer depuis cette date-là. Et je voulais en quelque sorte prolonger le destin bousculé, mais je l'ai fait sous la forme romanesque.
Irène, dès le début du roman, qu'est-ce qui vous a touché dès le début dans le roman de Claude Rodin?
Ce qui est très touchant, et c'est intéressant parce que au début, Christophe, vous disiez que c'était pas du coaching, et finalement, ce roman, c'est un roman de résilience.
Oui.
C'est le roman de tout un parcours. C'est comment un petit garçon se sort d'une situation qui est dramatique au départ. Donc, effectivement, extrêmement touchante, bouleversante même. Et tout le roman, c'est comment il se sort, et à la fois, comme tous les individus, on reste accroché à une recherche,
Moi, ce qui m'a beaucoup touché, comme le mot que vous employez, Irène, est très important, on va interroger Claude là-dessus, c'est l'idée de la résilience au sens de Boris Cyrulnik. L'enfance, hein, nous, on parle toujours chez nous, les coachs psychosologues, on a un enfant intérieur, on peut dire tout de suite l'enfant, mais on parle du héros. Hein. Le héros, c'est Charles, n'est-ce
c'est
pas
Charles,
il s'appelle Charles.
Charles.
On va parler de Charles parce qu'on va partir de l'idée que c'est un roman. D'accord? Donc Charles est orphelin.
Oui.
Allons-y, expliquez-nous.
Alors, Charles est orphelin, mais avant toute chose, je dois dire que ce roman, ce n'est pas une sorte de satisfaction personnelle, d'orgueil, d'ambition mal placée, etc. C'est avant toute chose un message d'espoir. J'ai voulu montrer comment un enfant qui naît dans la boue avec des galoches cloutées peut se réaliser un jour. Et pour se réaliser, il faut un moteur, il faut un objectif. Et cet objectif, Charles en a un. Cet objectif, c'est sa mère, cette mère imaginaire qu'il n'a jamais connue et qu'il ne connaîtra d'ailleurs jamais. Mais c'est une mère qu'il a construite de toutes pièces dans sa tête. Et grâce à cette mère, avec qui il dialogue en quelque sorte, hein, il dialogue avec l'invisible, mais il dialogue avec elle, cette mère va l'aider à se réaliser. Et comment elle va l'aider à se réaliser? Eh bien, il va vouloir la séduire, il va vouloir la conquérir. Il va vouloir se faire aimer d'elle.
Alors c'est amusant, Claude, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Irène, moi qui suis normalien à la base et en boucle, qui ai une admiration sans bord pour Romain Gary. Il y a quelque chose qui est en front, vraiment, en miroir renversé entre ce que vient de nous dire Claude Rodin de cet enfant orphelin, et il nous a dit que c'était autobiographique, qui se construit une mère et avec qui il veut se faire aimer d'elle alors que c'est une mère fictive. Et évidemment, chers amis auditeurs, vous connaissez tous La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est justement l'exact inverse d'une mère juive, mais ultra, ultra, ultra possible. Dans le film, c'est Pierre Ninet qui le joue avec Charlotte Gainsbourg, qui lui aussi veut répondre au désir de la mère. Mais alors là, la mère est présente tout le temps, voire presque omniprésente. Chez vous, oui. Elle est complètement absente. Et chez Gary, elle est omniprésente.
Elle est construite, elle est imaginaire.
Elle est imaginaire. Fait, ouais. Mais quand même, moi, ce que je trouve touchant chez Charles, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Irène, parce que Irène est thérapeute. Hein, donc, en tant qu'hypnothérapeute, elle pose des questions aussi. Et vous le savez, chers auditeurs, qui sont des questions cliniques. Il vit quand même un enfer, le petit Charles, n'est-ce pas, Irène Cazenave, dans les premiers temps. Enfin, dès les premiers chapitres, quand même, il est ballotté de maison de correction en maison de correction, d'orphelinat, jusqu'à Charonne. Vous nous parlerez de Charonne, hein. On peut imaginer qu'il l'a peut-être vécu. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Cazenave, quand... On va peut-être passer une page musicale avant que vous nous posiez cette chose-là. Restez avec nous, c'est passionnant. On va voir ce qui se passait dans ces années-là. Guerre, tout de suite après guerre, dans des enlieux. Institution peu ragoûtante, on a la chance d'avoir Claude Rodin. Restez avec nous, on passe une chanson et ça va être passionnant.
Qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger. Vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent, à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Les enfants du monde entier.
le grand, l'immensif du Tay qui nous parle des enfants du monde entier. Nous sommes au cœur du sujet. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Nous traitons justement des premiers chapitres d'un magnifique roman, chers amis auditeurs, de Claude Rodin, Le temps des orphelins, aux éditions City. Irène, nous étions sur les premiers chapitres justement, où justement Claude parle de Charles, de l'enfance de Charles.
De ses grandes difficultés.
Oui, qu'est-ce qui s'y passe alors?
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, on a tout le dramatique de la situation de cet enfant, et ça va très loin, et c'est pas du tout, il n'y a pas de faux semblant, c'est vraiment, voilà, c'est ses difficultés, comme d'autres enfants aujourd'hui sans doute en traversent. Et c'est comment il s'en sort avec, moi, ce que j'appelle la sublimation. C'est quand il imagine sa mère, il n'est pas dans la revanche, il n'est pas dans la haine, il est vraiment dans une sublimation.
Claude Rodin.
Oui, vous avez raison, la haine est improductive, donc ce n'est pas ça qui va vous faire aller de l'avant. Ce qu'il faut, c'est avoir, encore une fois, je disais, un moteur, une envie, un objectif. Mon objectif, encore une fois, c'était de séduire ma mère, et je l'imaginais toujours en robe claire pour la faire danser. C'est une image que j'ai gardée, même aujourd'hui, vous voyez, qui ne suis plus évidemment bien jeune. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ça n'est pas un livre, comment dirais-je, c'est pas de la méritocratie que je veux démontrer, ni même de la résilience. C'est simplement une force, d'avoir en soi une force, une rage de convaincre, une rage d'avancer. Et si j'ai avancé de cette façon-là, je crois que c'est parce que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est dans un dénuement affectif total, vous savez, je dis à un moment dans ce roman, qu'à l'âge de 10 ans déjà, je me disais, si je meurs, je vais finir comme un chat dans un caniveau et personne ne réclamera ma dépouille. Ça vous donne une idée de la solitude de l'enfant.
Alors,
de Charles.
Charles, ouais. Soyons clairs pour les auditeurs.
Bien sûr, de Charles.
Claude Charles, comme il est orphelin, va d'institut en institut. Il se retrouve donc au départ à l'institut... comment s'appelle le premier où il est ?
Château de Livette.
À Château de Livette. Puis après, un jour, il se retrouve à Charonne.
Oui.
Charonne, c'est chaud. Comment s'appelle ? D'ailleurs, vous avez, elle a un surnom, là.
Oui.
Vous lui donnez un surnom, la directrice. Elle a un drôle de surnom.
La Chameau.
La Chameau.
Elle s'appelait Chameau.
La Chameau, vous l'appelez la Chameau. Alors, qu'est-ce qui se passe à Charonne ? C'est violent, quand même, à Charonne.
C'est parce que, oui, là aussi, le destin vous joue parfois des tours, y compris les yeux fermés. Ce pauvre Charles, qui est dans une maison d'accueil, va mettre le feu à la maison sans le vouloir. On l'envoie chercher du charbon dans la cave, et puis il a une lampe à pétrole, il y a le vent qui fait claquer la porte, il a peur, il court, il renverse la lampe à pétrole, il met le feu au charbon, enfin à la paille du sol, et ça y est, on le traite de pyromane, de gamin épouvantable, etc. Et c'est là, on va l'envoyer en maison de correction, on va l'envoyer à Charonne. Et à Charonne, ça rigole pas. Parce que tous les enfants qui sont là sont plus ou moins, évidemment, dans le même dénuement affectif, mais surtout, ils se forment des clans. Les dortoirs, c'est des règlements de compte tous les soirs. Et puis les gardiennes, car ce n'étaient pas des infirmières, on l'appelait les gardiennes étaient des femmes épouvantables. Je ne dis pas que toutes les femmes le sont, mais là, c'était des femmes épouvantables. Elles n'hésitaient pas à vous faire marcher au pas, alors qu'on était, Charles était jeune, il avait 8-10 ans. Si on ne marchait pas au pas, c'était des coups de d'osier dans les jambes, dans les mollets. Et puis, quand ça allait plus mal, on vous attachait sur un lit directement sous le samier en enlevant le matelas pour vous fouettez nu, enfin, et ensuite c'était la douche glacée, enfin, c'était vraiment un traitement difficile. Hein.
Ces traitements, on se croirait,
surtout
parle des camps de concentration.
On
repense quand même que dans ces années, là on est dans les années, enfin après-guerre, 50. Ouais, les années 50, il faut voir que cette époque-là, l'éducation, presque un enfant, on le dresse comme un animal.
Et on le dresse.
Il y a une violence. Je veux dire, les gens n'ont pas lu Dolto. D'ailleurs, Dolto n'a pas forcément écrit beaucoup de livres. Et on pense à toute l'œuvre d'Alice Miller, hein, la pédagogie noire qu'a conceptualisée la grande thérapeute pour enfants qui était Alice Miller. Et la pédagogie noire, c'est la pédagogie de la maltraitance, hein, chers amis auditeurs. Alors, par contre, l'ironie du sort, Claude, c'est que ça lui donne une chance, c'est qu'il retrouve Robin.
Alors,
et Robin, c'est
son frère. Mais il ignorait en plus de ça qu'il avait des frères et sœurs.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on va peut-être déflorer, mais il n'en a pas qu'un de frères et sœurs. Ils sont cinq.
Ils sont cinq. C'est une fratrie, la pieuvre, comme l'appelle la grande
sœur. La grande sœur a dit que c'est une pieuvre.
La pieuvre a cinq tentacules.
Mais c'est une vérité, ça.
C'est la réalité. Tout ça, c'est vrai, bien entendu.
C'est que vous avez une fratrie de cinq.
De cinq, oui.
Mais vous ne le saviez pas quand vous arrivez, et avant de voir Robin, vous ne savez pas que vous êtes cinq.
Alors, j'apprends d'abord l'existence de Robin, Ouais. Que Charles ignorait parce qu'il était trop jeune pour s'en souvenir. Et il a cette relation avec Robin qui va être une relation très forte.
Au début, c'est violent. Il n'est pas gentil, Robin, avec Charles.
Il n'est pas gentil.
Il lui met un clou dans le cou.
Oui, il fait partie des
tabasse,
il a son clan.
C'est un caïd. C'est un caïd.
Ouais, il a 2 ans de plus.
Ouais,
il a 2 ans, comme il dit à son frère, on a 2 ans de différence, mais c'est définitif. Et il a raison. Donc, il va être chef de clan et il va pas du tout ménager son petit frère. Au contraire, il va l'élever à la dure. Il va lui dire débrouille-toi, bats-toi, défends-toi, apprends à te défendre. Et puis voilà. Donc, peu de temps après.
Comment vous la qualifieriez, la relation au début entre Robin et Charles, Charles et Robin ?
Une relation, comment dirais-je, peut-être de conflictuelle. Conflictuelle, parce que il a 13 ans, Charles en a 10, ou 12, 11, pardon, 2 ans de différence, et ils n'ont pas été élevés ensemble. Ils n'ont pas d'historique ensemble. Ils n'ont pas de jeunesse ensemble. Ils n'ont pas vécu leur jeunesse tous les deux. Donc, quand ils se retrouvent, c'est presque des étrangers, en quelque sorte. Hein. Et comme Robin est un peu plus âgé, ben voilà, il lui fait sentir sa puissance et sa force. Et c'est vrai que c'était un garçon un peu bagarreur, un peu dur, mais c'était aussi un grand cœur à la fois, parce que on va se rendre compte à la lecture du livre.
Plus tard, ça va changer. Mais Irène, ça nous permet de faire un développement pour nos auditeurs, de plus en plus nombreux, on vous remercie de nous écouter, hein, sur les relations fraternelles, dans la fratrie, que ce soit d'ailleurs frère-sœur ou sœur-frère. C'est pas la névrose bonbon, on est d'accord. Il y a que, suivant le lieu, comme a dit très joliment Claude, le nez, le cadet, il y a des rivalités, des jalousies,
suivant,
des envies.
Suivant la place, effectivement, ouais. Et c'est, on en parle assez peu en psychologie, en développement personnel, alors que c'est fondamental, ces idées de fratrie, et encore plus, j'ai envie de dire, quand il n'y a pas de parents ou quand il n'y a plus
là,
de
y en a
parents.
Pas. Là, il n'y en a pas.
Et où là, c'est la loi du plus
c'est
fort.
C'est la loi de la jungle, plus.
C'est la loi de la jungle. Où là, on se retrouve en direct, justement, avec cette... j'ai envie de dire cette rivalité même qui se place, même si c'est pas tout à fait d'égal à égal au départ, ouais. Et ce n'est
on va voir
jamais
ça un peu
complètement
plus tard,
d'égal
Irène,
à égal.
Et dans d'autres chapitres, parce que c'est pour ça que je disais à Claude de peut-être temporiser un peu, dans d'autres chapitres ça va changer,
oui.
Il y a des choses qui vont bouger, comme toute relation, ça évolue, oui. N'est-ce pas? Oui, Claude Rondin.
Oui, je voulais dire simplement que le héros, Charles, me fait penser un peu à Twist dans le roman de Charles Dickens.
Hein,
il est un petit peu, ils ont une même aventure, où on peut penser aussi à Rémy dans Sans Famille, du roman d'Hector Malot. C'est un peu du même, de la même...
Ou Chien perdu sans collier, de Gilbert Sèvrant.
Chien perdu sans collier, tout à fait, j'ai adoré.
J'ai adoré, oui. Ouais.
Mais ce qui est intéressant de voir dans ce passage, dans cette maison de correction, c'est que notre Charles va se rebeller. Il ne va pas accepter ce traitement.
On va en parler dans quelques minutes. On passe une page musicale. On va voir comment Charles, petit à petit, s'émancipe et veut se rebeller. Restez avec nous, c'est passionnant.
C'est vrai.
Il suffirait simplement qu'il m'appelle. D'où vient ma vie, certainement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence, tous les jours. Comment briser le silence qui l'entoure. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête. Simplement qu'à part ça, tout va bien. À part d'un père, je ne manque de rien. Je vis dans un autre monde. Je m'accroche tous les jours. Je briserai le silence qui m'entoure.
Ah, le grand Calogero qui certainement a subi dans son cœur et dans son corps quelque chose qui a à voir avec le, est-ce que nous dit le romancier. Vous êtes toujours avec Christophe Midici, Irène Cazenave et Claude Rodin qui nous fait la choix d'être avec nous aujourd'hui dans Pour vivre heureux, Yvon Cotier, pour son tout nouveau roman passionnant et génial, Le temps des orphelins. Nous en étions donc, Claude, à ce que là, à Charonne, à un moment donné, Charles, pardonnez-moi l'expression, il en a jusque-là. Et que décide-t-il donc à ce moment-là, Charles ?
Ben, il décide de fuguer. Il ne peut pas supporter ses humiliations, il ne peut pas supporter les épreuves physiques qu'il rencontre, et tous les autres orphelins qui sont là acceptent, j'allais dire un peu, se résignent. Lui ne se résigne pas, il se rebelle. Il se rebelle, il va franchir un soir la clôture, et il va s'en aller. Il va s'en aller pour aller droit dans l'existence. Mais il se dit, qu'est-ce que c'est que l'existence ? Il ignore. Il ne sait pas où il va, d'ailleurs. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il faut qu'il marche.
Il a quel âge
qu'il
à ce marche. Moment-là ?
Il a 12 ans.
Il a 12 ans, d'accord.
Il faut qu'il marche dans sa tête, qu'il marche jour et nuit. Il faut qu'il s'éloigne de Charonne. Et il va réussir à le faire parce qu'il va vivre, comme, il va vivre quand même.
Je crois qu'il veut aller à Versailles, n'est-ce pas ?
Oui.
Il vise Versailles.
Oui, mais
il a quelque chose pour Versailles. Il veut dénoncer ce qui se passe à Charonne.
Il va de Charonne, qui est à Toulouse, jusqu'à Versailles, il y a 500 km.
Mais il les fait vraiment ?
Oui, et il les fait vraiment. Et il les fait à pied.
Mais il y a
quelque chose. Il ne peut pas faire de stop. Un gamin de 12 ans sur la route, on va le ramener tout de suite à la police ou au commissariat. Donc, il va le faire à pied. Et il va vivre pendant 3 mois avec les renards, dans la forêt, recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Il va voler les œufs dans les poulaillers la nuit, ce qui ameute les chiens, éclaire les lumières, il fuit dans le noir, etc. Il va arracher des légumes pour manger, il va boire le lait au pis des vaches. Il va traire les vaches lui-même. Et elles sont mignonnes, elles vont se laisser faire. Il va boire l'hiver. Non, mais c'est incroyable.
Quelle vie.
Et au bout de 3 mois de marche, il va arriver à Versailles. Et là, il va évidemment révéler tout ce qui se passe à Charonne.
Irène, quelle vie à 12
alors,
ans,
moi,
ça.
Moi, je trouve ça fabuleux parce que c'est un roman initiatique, en fait. Parce que 12 ans, c'est la préadolescence et cette reconnexion à la nature, cette reconnexion à l'humanité, mais à travers, j'ai envie de dire, l'animalité, en vivant dans la forêt avec les renards, etc. Il y a quelque chose de... où vous retrouvez une espèce... Et c'est intéressant... avec les vaches, le lait, une espèce de pureté. Et il y a plein de symboliques même dans le fait...
Le mot est exact, il y a une notion de pureté. Parce qu'au début, évidemment, Charles a très peur de tout seul dans la forêt, la nuit, etc. Et puis il va s'habituer aux mulots, il va s'habituer aux araignées, il va s'habituer aux rats, tout ça. Et il va s'en faire presque des amis, si je puis dire. Il vit avec.
Il vit avec la nature et la pureté. La nature, oui. En même temps, il est focus. Il a vraiment envie d'aller à Versailles.
Ah ouais, il a que ça en tête.
Il a que ça en tête.
Il veut dénoncer les humiliations et les sévices qu'il y a à Charonne.
C'est incroyable, il a 12 ans, il a un côté justicier, révolutionnaire. C'est injuste ce qui se passe là-bas, Irène. C'est
incroyable. Oui, il y a vraiment quelque chose où le moteur, c'est pas seulement lui, c'est les autres. Et puis, dans la fuite, c'est une réaction de survie. Il y a un instinct de vie qui est extrêmement fort chez Charles. c'est important d'être connecté à ça aussi. Et cette reconnexion qui se fait avec la nature, elle amplifie aussi ce phénomène.
Cette quête.
Et l'existence humaine, c'est aussi humaine et peut-être animale d'ailleurs, mais c'est aussi comment on prend place avec les autres. Et cette place, c'est d'aller défendre aussi ces enfants maltraités qui n'ont plus la parole.
Oui. Claude Rodin.
Il se fait un peu le porte-parole.
C'est ça.
À tel point d'ailleurs que quand il va arriver à Versailles, il va dénoncer les sévices et on va dire on ne va pas le croire. On va dire non, il nous raconte des histoires et on va nommer une commission d'enquête qui, sur place, va faire fermer l'établissement. C'est quand même, il arrive à ses fins, en définitive, notre chat.
Ça va faire fermer l'établissement.
Oui, il fait fermer l'établissement.
Ça va jusque-là. Claude Rodin, qui sont les Fouquet?
Ah, les Fouquet, alors ça, c'est une famille de rêve, parce que c'est une des familles d'accueil dans lesquelles Charles va être, implanté. Et c'est un couple de vieux retraités absolument fabuleux. Ils sont tendres, ils sont affectifs, ils aiment les fleurs, ils ont un jardinet. Le mari tient à ses fleurs, il ne faut pas les toucher, on a le droit de les regarder, les sentir, mais surtout pas les toucher. Enfin bon, donc il y a ce côté très poétique chez les Fouquet.
Et Charles, il reste combien de temps, Charles, chez les Fouquet?
Un an. Et il se dit... Pourquoi on ne m'a pas fait naître dans une famille comme les Fouquet? On est tellement bien chez les Fouquet. Et c'est vrai que Martha, la femme, lui prépare des petits plats. Enfin, ils sont vraiment très gentils. Il n'y a pas eu des salauds sur Terre. Je veux dire, même dans cette situation extrêmement grave ou pénible, il va rencontrer des gens fabuleux.
Et je pense que c'est ça qui aide aussi à la résilience. Irène va nous développer la question. Moi, j'ai un père qui a été placé aussi pendant un temps quand il était à peu près un peu plus jeune que l'âge de Charles. Et ça permet aussi, comme vous venez de le dire, de voir d'autres figures parentales, d'autres figures qui finalement sont construites, comme aurait dit Freud, des figures maternelles et des figures paternelles. Parce que Wolins-Nolins, on a trois pères et trois mères, chers auditeurs, n'oubliez pas. Hein, Freud l'a dit, Jung l'a dit, il y a le père réel. Bon, là, effectivement, et la mère réelle, pour Charles, ils ne sont pas là. Mais il y a ce qu'on appelle l'imago paternel et l'imago paternel. Charles en a un, et Dieu sait s'il nous dit qu'il le développait même quand il était tout petit. Et on a la mère supérieure et le père supérieur qui sont les figures maternelles et paternelles. Ça peut être la nature, ça peut être Dieu, ça peut être... Et ça, c'est le père supérieur, Irène Cazenave.
Oui, complètement. Et là, c'est pour ça aussi que je parlais de roman initiatique. Dans ce roman, il y a aussi ces images-là. Il y a des figures paternelles et maternelles qui sont trouvées. Alors, des malveillantes et des bienveillantes. Mais il y a les deux. Il y a l'imaginaire qui se développe. Et puis, je reviens sur cette construction qui se fait aussi avec la nature. Et y compris dans ce couple-là, où il y a ce respect du vivant, ce respect des fleurs, dans le respect du vivant de façon, j'ai envie de dire, plus large même.
Claude Rodin.
Oui, je crois que cette dimension est importante. Elle est importante parce qu'elle participe à la construction de Charles. Il va se rendre compte que tout ce qu'il a vécu à Charonne, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a d'autres facettes, il y a d'autres miroirs dans lesquels on peut se refléter et trouver des images beaucoup plus heureuses, beaucoup plus sereines. C'est le cas donc des Fouquet. Et plus tard, je ne sais pas où on en est, plus tard, lorsqu'il va devenir adulte, il va se rendre compte à quel point ses apports ont été très bénéfiques, à quel point ça l'a transformé. Parce qu'il aurait pu être revanchard, rancunier, méchant, violent. Il n'est rien de tout ça. C'est un poète.
Et c'est là que ce que dit Claude Rodin, chers amis auditeurs, vraiment fait sens. Ça fait sens de ce que dit le philosophe, ça fait sens de ce que dit le thérapeute. Ce n'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui fait ce qu'on est, c'est ce qu'on en fait. On peut vivre les pires insanités et le transformer en amour, pas vrai, Claude Rodin? On peut vivre les pires insanités et devenir à cause de ça la pire des raclures. Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave? C'est la vérité, en vivant les mêmes choses.
Complètement, c'est la façon dont on... Alors après, il y a de l'acquis, il y a de l'inné, c'est comment on arrive aussi à trouver de la fleur qui pousse dans le pétrin. Et il y a cette question où ce roman, là où je le trouve extrêmement utile, vraiment, lisez-le.
Oui, lisez-le, vraiment.
Il y a les moteurs qui font que, qui transcendent les passages difficiles. Même le titre, quand vous dites le temps des orphelins, c'est comme si c'était qu'un temps et qu'après, il y a d'autres temps pour d'autres choses.
Voilà, ça n'est qu'un temps, tout à fait.
On passe un peu de musique et on continue à développer certains chapitres passionnants parce que c'est une saga.
c'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en plein sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: monsieur, ramassez-moi chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais: c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur, il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Le petit bonheur, Félix Leclerc. Mais c'est un grand bonheur d'avoir Claude Rodin. Alors, c'est comme le sculpteur, mais ça ne s'écrit pas barbé.
C'est pas Romain Gary, c'est Rodin.
Nous sommes Claude Rodin, mais ça s'écrit R-O-D-H-A-I-N.
C'est moins auguste que l'autre, effectivement.
Alors, Claude, votre livre, Le temps des orphelins, on en était à ce moment-là. C'est vrai que quand même, au fil des pages, souvent, mais même chez les Fouquet, il a toujours cette obsession, il pose la question... Quand, en 55, en 1955, quand vais-je revoir ma mère? Quand vais-je revoir ma mère? Oui. Quand vais-je revoir ma mère?
Ah oui, c'est
un leitmotiv tout de même, hein, Claude Rodin.
Oui, oui.
Il y a quelque chose comme ça d'obsessionnel. C'est, ben,
c'est obsessionnel d'une part, et puis d'autre part, il espère toujours. Parce que plus il gravit les marches de l'échelle sociale, plus il se dit « maman va entendre parler de moi, obligatoirement ». Donc elle va venir, elle va me retrouver. Et c'est sa quête, c'est sa conquête permanente, c'est évident.
Alors, est-ce que, Irène, vous êtes penchée sur la question des orphelins, sur la question de ces enfants-là qui, évidemment, on l'a dit avant le passage musical, ça dépend complètement des gens, mais il y a quand même ce que ressent ce Charles, tout le monde le ressent.
Ce besoin de reconnaissance qui est,
énorme.
Qui est énorme et qui, en même temps, est moteur. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que il n'y a pas de clivage. C'est les deux. C'est à la fois un moteur et c'est à la fois un malheur. Mais c'est les deux en même temps.
On parle pas beaucoup d'école dans le roman. Il était comment, Charles, à l'école
Alors, il était...
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de l'école, là.
Il était moyen, mais il a eu la chance de rencontrer, là encore, vous voyez, il y a des aiguillages favorables dans la vie, hein, il n'y a pas que des malheurs. Il a eu la chance de rencontrer M. Philippe, qui était un professeur bénévole, et qui va trouver dans ce garçon un grand potentiel. à tel point qu'il va lui faire faire des études, et il va, grâce à cet homme, Charles va passer tous les examens et suivre le CNAM, devenir ingénieur, etc. Donc il a quand même, il avait un potentiel important, même si du point de vue scolaire, il n'avait pas des notes mirobolantes, mais voilà, il s'est fabriqué à nouveau. C'est un garçon qui, c'est de la pâte à modeler, ce garçon. Il finit par ressembler à la forme qu'il veut se donner. Il se modèle, oui, c'est ça, en fonction des rencontres, en fonction des personnages qu'il croise, et Dieu sait s'il en croise pas mal. Donc, oui, il se fabrique.
Voilà. Alors, Irène Cazenave.
Et c'est là aussi où c'est un moteur, parce que ce besoin de reconnaissance, il passe aussi dans les alliances qu'il y a avec notamment ce professeur. Mais du coup, quelque part, pour plaire à l'autre, il se construit aussi. Et pour moi, la question, ce serait, est-ce que vous avez réussi à vous plaire à vous ? Est-ce que Charles a réussi à se plaire à lui ?
Alors, je crois que ce n'est pas posé la question. Ce qu'il voulait, c'est plaire à sa mère, avant toute chose. Parce qu'encore une fois, il était en période de séduction. Sa vie, Charles pense que sa vie, c'est une grande comédie, en définitive. Il ne sait pas s'il l'a vécu. Il ne sait pas si tout ça, ce n'est pas une grande pièce de théâtre. Et si il y a les personnages qu'il rencontre sont des acteurs qui ont disparu, en quelque sorte. Et il est pris comme ça dans ce jeu de la vie. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est bien, pas bien, heureux, pas heureux. Il avance. Il avance toujours avec cet objectif en ligne de mire, cette femme en robe claire qui va faire danser. C'est ça qu'il a dans la tête en permanence. Donc, je ne pense pas qu'il fasse de l'auto-analyse, etc. Il est nature, en quelque sorte. Hein.
Alors, il y a un moment donné, au détour d'un chapitre, quand même, là, peut-être une des grandes rencontres du roman, Claude, hein, c'est la rencontre de Julie. Alors là, il y a un tournant. Bah, qui est Julie ?
Alors, il y a un tournant important, puisqu'il va apprendre, il a 18 ans, il va apprendre, étonnamment, qu'il n'est pas seul au monde. Il a une fratrie. Il a une fratrie, en fait, il n'y a pas que Robert, son deuxième frère, mais il y a deux autres frères et une sœur.
Non mais
dont Julie.
Sincèrement, mais c'est une vie de roman. On n'est pas étonné que vous en soyez. Il y a combien de romans, Claude ? 15. C'est une vie de roman. Je veux dire, il est orphelin. Tu peux dire que t'es orphelin. Dans mon d'habitude, t'as zéro frère et sœur. Lui, il en trouve un à 12 ans. Il se rend compte à 18 ans qu'ils sont 5. C'est quand même assez. On l'écrirait en roman, on le croirait pas.
Oui,
c'est la vérité, ça.
Oui, c'est tout ça, c'est la vérité.
La réalité dépasse souvent la fiction.
Jusqu'au bout, c'est la réalité. Je vous dis, le fil conducteur, c'est toute la vie, évidemment, de l'auteur. Et alors, il va rencontrer Julie, qui a 10 ans de plus que lui, qui, elle, connaît évidemment tout ce qui s'est passé. Pourquoi l'abandon ?
Parce qu'elle avait 10 ans.
Mais elle va faire, elle va être amnésique. Elle va oublier, volontairement ou pas, je l'ignore, mais Charles l'interroge et lui dit « Mais pourquoi on m'a abandonné ? Pourquoi je suis seul ? Comment était maman ? Comment était papa ?» Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Elle fait un blackout total.
Et quelle frustration pour Charles, et
je crois que c'est vrai en plus. Même maintenant encore...
Elle est encore en vie ?
Elle est encore en vie, elle a 90 ans, 91 même, mais elle n'a toujours pas révélé les raisons pour lesquelles cette famille s'est disloquée.
C'est un secret de famille ? Irène Cazenave, on peut appeler ça un secret de famille ?
Probablement, bah,
profond,
oui. Après il peut y avoir une amnésie.
C'est quand même deux parents qui laissent à la DAS, enfin à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais maintenant on l'appelle à la DAS.
L'ASE maintenant, oui.
Oui, mais cinq enfants, en pleine guerre.
Mais non, ce qui est beaucoup plus troublant encore, c'est que Charles ne va connaître ni son père, ni sa mère, mais ni les grands-parents, ni les oncles, ni les tantes, ni les cousines, personne. Comme si la famille avait été anéantie par une bombe du jour au lendemain. Personne. Et il n'entendra plus jamais parler d'un Rodin, quel qu'il soit, en dehors,
et
évidemment, de la fratrie qu'il a retrouvée.
Moi, je suis très touché, parce que mon père, toute chose égale par ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Il avait son père et sa mère, mais il a été placé. Parce que tout de suite après, quand les gens n'avaient plus assez d'argent, il est placé même au Luxembourg. Mon père, chers amis auditeurs, a été placé au Luxembourg. Il était 34. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu ce que vous sous-entendiez. Généralement, moi, en tout cas, c'était le cas de mon père. Je peux parler de personne d'autre. généralement, ils se construisent. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle, chers amis auditeurs, les personnalités cryptées, dans, avec des cryptes à l'intérieur. Oui. C'est qu'ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que tout un temps, c'est presque, c'est comme si, c'est pas qu'ils en avaient honte, mais on n'a pas à dire ces choses-là. Oui. Les hommes nés dans les années 30 se construisent, mettent en place des bunkers pour construire une personnalité très forte qui va prendre sa revanche sociale, mais on ne parle pas de ça, Claude Rodin.
Oui,
on ne parle pas de ça.
Il y a une forme de pudeur.
Oui, alors il y a de la pudeur.
Il y a de la pudeur. Parce que les autres enfants qui ont leurs parents, que Charles appelle les gens d'en face, les gens du trottoir d'en face. Parce que lorsqu'on voyait ces jeunes orphelins sortir de Charonne, eh bien, les gens bien, entre guillemets, changeaient de trottoir. Ils avaient peur d'être contaminés. Donc, il y avait cette notion de pudeur qui était extrêmement importante. Et puis, Christophe a raison, c'est une époque où l'on se construit, où l'on se bat, où l'on se défend, où on n'accepte pas la fatalité, où on ne renonce pas, où on ne se résigne pas. Ça, c'est clair. Et Charles fait partie, évidemment, de ces enfants-là, de cette époque.
Oui, et c'est débattant, Irène Cazenave.
Alors,
ça leur donne une rage de vivre.
Il y a plusieurs réactions possibles dans ce... Le non-dit peut servir à se construire malgré, c'est cette fameuse résilience.
Ouais.
Mais quelquefois, c'est... Ça crée aussi, chez d'autres personnes, quelque chose d'un peu bancal. Mais c'est des périodes où, de toute façon, le dire était compliqué, parce que à qui on le dit, comment on le dit, comment on peut être entendu.
D'autant plus que Claude nous dit que Charles pose X fois la question à sa sœur aînée.
Mais peut-être qu'elle ne peut pas dire, elle s'est construite. Elle s'est construite dans le non-dit. C'était nécessaire. Elle s'est construite dans le déni, parce que c'était aussi probablement un moment où elle ne pouvait pas dire à qui dire.
Avant de passer une petite page musicale, quand même, je pense à mon ami Boris Cyrulnik, qui un jour m'avait dit que, et lui, Dieu sait s'il a souffert aussi, perdre des parents, il a 5 ans, à Bordeaux, il sauve des nazis in extremis. Il dit qu'à un moment donné, la construction du symptôme, elle se fait de la même manière. Rien, vous êtes hypnothérapeute. Chers amis auditeurs, le symptôme, c'est quoi? Si tu as une fracture ouverte d'un bras ou d'une jambe, on va te mettre un plâtre. On est bien d'accord. Ou des broches, voire même des broches. Bon, pendant X temps, ce plâtre, on a besoin pour que l'os se reconstruise. Quand on vit une enfance comme ça, je veux dire, là, pareil, on a une fracture ouverte, mais de l'âme, on est d'accord. La métaphore est assez jolie, mais c'est la vérité. Eh bien, Cyrulnik dit, on construit un plâtre. Le problème, c'est que ce plâtre, parfois, on l'enlève pas.
Oui.
Claude Rodin.
Mais les blessures de l'âme sont ouvertes à jamais, d'abord. Elles se referment jamais. Ce sont des plaies vives qui, quelle que soit votre réussite, ne se referment pas. Et Charles n'a qu'une envie, en fait. Je crois qu'il a plus peur que les autres. Il a plus peur que les autres et il veut monter dans la plus haute des branches, si je puis dire, pour échapper aux prédateurs. Parce que quand on est seul, on a peur. On n'a pas les codes, d'abord, de la vie. On n'a personne qui puisse vous défendre, si vous arrive quoi que ce soit. Donc, l'inquiétude est permanente. Et Charles, donc, va, à travers ses démarches, non seulement essayer de conquérir sa mère, bien évidemment, mais également se sauver lui-même, se protéger lui-même. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Je suis monté dans la plus haute des branches pour m'échapper aux prédateurs.
C'est beau, hein. Chers amis auditeurs, avant de passer une page musicale, je pense vraiment à cette phrase de Rainer Maria Rilke dans Les lettres à un jeune poète. « Les souhaits sont des souvenirs du futur. » À méditer. On passe une page musicale.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre.
et à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller, apprendre à rêver, à rêver pour deux. En fermant les yeux et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Savoir aimer, c'est vraiment un bijou, bijou de Florent Pagny. On est sur l'amour dans ce livre, Le temps des orphelins de Claude Rodin. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coachés sur Dynamique Radio. Vous êtes bien sur la première numéro une des radios. Et Irène Cazenave nous fait la chance d'être là aussi, la joie d'être là. Il parle à un moment donné, donc avec ses frères et sœurs, il se retrouve, la fratrie se retrouve, hein, Claude Rodin.
Oui, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce qui se passe quand la fratrie se retrouve? Est-ce qu'ils se retrouvent, ils se racontent leur passé, ils se racontent ce qu'ils ont vécu d'un côté et de l'autre?
Je vais vous étonner. Ils ne vont pas se parler, en fait.
Incroyable.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas vécu ensemble, lorsqu'on n'a pas de passé, lorsqu'on n'a pas d'historique, c'est très difficile de raconter sa vie, parce que vous mettez en touche. Vous racontez une histoire que personne n'a vécue avec vous, donc ça ne présente aucun intérêt. Et les frères qu'il rencontre, en particulier, les deux autres frères qu'il rencontre, pour lui, ce sont des étrangers. Il n'a rien à leur dire, il ne sait pas quoi leur dire. Quoi lui raconter? Charonne, ils ne l'ont pas vécu, à quoi ça servirait? Le fait qu'il ait traversé la France à pied, oui, pourquoi pas, mais tout ça, ça leur est étranger. Et à part Julie, avec laquelle Charles va entretenir des relations extrêmement,
intimes, profondes, ouais.
Parce que c'est une femme, c'est presque la mère, c'est la sœur-mère en quelque sorte. Hein. Donc il va avoir des relations avec sa sœur qui vont être très puissantes. Et il continue à en avoir d'ailleurs.
On peut penser aussi qu'elle ressemble physiquement à la mère. Elle a quelque chose de la mère, puisque ils ont les mêmes pères et les mêmes mères tous les cinq.
Oui.
Ils ont le même père et la même mère, ça c'est sûr.
Vraisemblablement, parce que Charles ne le sait pas. Il n'a jamais eu d'informations, quelle qu'elle soit, sur sa naissance, ses antécédents. Alors, il aurait pu faire des recherches sur Internet, etc. Mais là aussi, il y a une question de pudeur, il n'ose pas. Il n'ose pas connaître la vérité en définitive.
Qui est Julie, ouais. Claude Rodin ?
Pardon ?
Qui est Julie ?
Julie ?
Il y a Julie.
Julie, alors c'est la...
Sophie. Je l'ai compris. Sophie. Qui est Sophie ? À un moment donné, arrive un personnage important, c'est Sophie.
Sophie, ben oui, c'est son épouse. Son épouse est... là aussi, c'est très romanesque, parce qu'il rencontre cette jeune fille à la 16 ans ou 17 ans.
Et c'est toujours Sophie, son épouse ?
Pardon ?
C'est toujours 60 ans après
Ah non,
Sophie.
Ce n'est plus son épouse.
Ce n'est plus son épouse, d'accord.
Il en a cassé quelques-unes d'autres. Non, je plaisante. Ce n'est pas très gracieux de dire ça. Non, simplement, il a eu trois épouses, en définitive.
Trois épouses, d'accord.
Et Sophie, il la rencontre parce que c'est une jeune fille qui fait de la danse classique. Ses parents ont un restaurant à Montmartre, à l'auberge Montmartre.
Et c'est Monsieur Husson.
Pardon ?
Monsieur Husson.
Ah, Monsieur Husson, c'est autre chose. Monsieur
Husson, c'est plus tard.
Lui, il est dans un...
Il va beaucoup lui apporter, ce Monsieur Husson.
Oui, parce que c'est un homme
important
intelligent,
pour lui.
C'est un homme très humain, c'est un homme qui est à l'écoute des enfants.
Il lui apporte beaucoup, il l'éduque.
Sur Sophie.
Revenons à Sophie, la première épouse.
Il rencontre cette jeune fille, il a 19 ans, il est... c'est son premier amour, parce qu'il faut dire aussi que Charles, à 20 ans, il ne sait rien faire. Il ne sait pas faire de vélo, il n'a jamais appris à nager, il n'a jamais fait l'amour, il n'a rien. Il sort de derrière les barreaux, derrière les murs, et
d'études, il a fait quoi ?
Pardon ?
Il faisait quoi ? Il en était où en termes d'études ? À 20 ans, il avait fait quoi ?
Il était toujours au CNAM, il faisait toujours
ses
études. Ouais. Mais il va être appelé au service militaire.
Et il va faire la guerre d'Algérie, je crois.
C'est la guerre d'Algérie.
Il y a un passage sur la guerre d'Algérie.
Il part en Algérie et il va en faire 33 mois parce que c'était pas de la rigolade.
Mon père aussi, à cette époque, ils font 3 ans.
C'était 18, 28, puis ça montait. Donc il va être confronté à la mort. Et là, à la mort physique. Et il va savoir ce que c'est que de devoir tuer un homme pour ne pas mourir lui-même.
C'est ou toi ou lui.
Bon, c'est toi ou lui. Bon, Dieu soit loué, il n'a fait que raser des orangers. Des orangers. Il s'est planté, il a cru que c'était des félagas qui arrivaient, mais ce n'était pas le cas. Bon, mais il a été confronté à cette peur de la mort imminente. Et quand il va revenir... Alors, d'abord, pendant cette période, Sophie et lui vont échanger des lettres à n'en plus finir, comme on le fait. On s'écrit tous les jours, mon amour, mon grand, etc., quand tu reviendras, etc. Et quand il revient, il n'est pas spécialement amoureux de Sophie. Mais il a l'impression qu'il lui doit quelque chose. Parce que ses parents l'ont accueilli, ses parents lui ont donné à manger, ses parents l'ont aidé à vivre. Donc, il se sent coupable, en quelque sorte, et dans l'obligation de l'épouser. Donc, il épouse un peu par reconnaissance, en fait. Donc, c'est un mariage qui ne va pas pouvoir durer parce que ce n'est pas bâti vraiment sur des sentiments profonds. Mais ils vont avoir quand même deux enfants. Deux enfants. Ils vont rester mariés une dizaine d'années, quand même, jusqu'au jour où, évidemment, le couple va se désagréger.
Au bout de combien d'années ?
10 ans.
10 ans.
Et Charles va partir pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec une autre femme qui, là encore, va beaucoup l'aimer. Bon, voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Irène Cazenave ? Parce qu'on voit bien que ce Charles, qui n'a pas connu sa vraie maman, cherche un peu la maman en toutes les femmes.
La maman dans toutes les femmes, et puis une famille aussi, parce que c'est quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi la famille. Donc il y a aussi cette question-là, la famille de l'autre côté. Il y a vraiment une espèce de reconstruction de famille, mais qui ne tient pas parce qu'elle n'est pas basée sur quelque chose de complètement juste, effectivement, comme c'est dit. Moi, quelque chose qui m'a interpellée, qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé avec vos enfants ?
Alors, avec mes enfants, ça s'est très bien... C'est une très bonne question, comme on dit. Ça s'est très bien passé parce que j'avais l'ambition... de leur donner tout ce que je n'avais pas reçu. C'est un peu la légitime réponse, évidemment, de la vie. À mon avis, je n'avais pas su le faire, d'ailleurs. Parce que quand on n'a pas les codes, on ne sait pas les transmettre. Donc, c'est très difficile. J'ai été très proche de mes enfants, mais je crois que je les ai trop aimés et mal aimés. Trop aimés parce que je voulais tout leur donner, et mal aimés, encore une fois, parce que je n'avais pas les codes pour cela. Mon fils... le fils de Charles aujourd'hui est extrêmement lié à son père. Il adore son père parce qu'il trouve qu'il est fantastique, qu'il est merveilleux, qu'il est intelligent, qu'il est brillant, qu'il a tout fait, etc. Ce à quoi il se trompe certainement, mais il a cette filiation extrêmement puissante. Il l'appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment vas-tu? As-tu bien dormi? Qu'est-ce que tu fais? Etc. C'est super ce que tu as fait hier. Enfin bon. Donc il a réussi.
C'est une belle relation quand même,
père-fils. Très belle relation.
Très belle relation.
Très puissante. Très très ouais. puissante.
C'est le fils aîné?
Assez rare.
C'est
oui.
le fils aîné, d'accord. Okay.
Assez ouais. rare. Ouais. Enfin non, pas fils aîné, excusez-moi.
L'aîné, c'est la fille.
C'était la fille.
D'accord.
C'était Sandrine qui malheureusement est décédée
Aïe.
Dans des conditions dramatiques.
Aïe, ouais, ça c'est une tragédie.
Dramatique.
Ça.
Ouais, à
quel âge?
Elle avait 50 ans.
Ah, mais ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver oui. à un parent.
Alors ça,
perdre son
ça,
enfant
ça été,
prématurément.
C'est dramatique parce ah, oui. que elle a perdu sa mère, donc Sophie. Elle a perdu sa mère, Sophie, qui s'est, comment dirais-je, qui est morte en privée d'oxygène parce qu'elle a avalé quelque chose qu'elle n'a pas pu
ah,
déglutir.
Ah, il y a une fausse route.
Une fausse route qu'elle n'a pas pu déglutir. Donc elle est morte comme ça, brutalement. Et sa fille, donc... Sandrine est morte pratiquement dans les mêmes conditions.
Non, c'est pas vrai. Une fausse route aussi.
Oui.
Identification à la mer ou quoi, Ivan Cazenave?
Donc, je dis ça, c'est pas pour faire pleurer les choses.
Deux fausses routes.
C'est
tellement rare.
Fausse route, et puis même symboliquement, il y a plein de choses, mais c'est aussi c'est de la psychogénéalogie presque de quand il y a comme ça des similitudes dans les parcours.
Oui, un peu génétique.
Ouais.
Mais bon, encore une fois, c'est pas pour faire du misérabilisme,
mais
c'est vrai que ça a été deux tragédies très importantes pour Charles qui l'ont profondément atteint.
Ah, bah
parce que il était très lié avec sa fille et bon. C'est un drame qu'il ne pourra jamais oublier.
Il faut écrire un livre très cher là-dessus. Ouais,
c'est encore une blessure supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres. Ouais. Donc le gouffre est profond. Mais bon, c'est comme ça, c'est malheureusement les aléas de la vie. On ne peut pas y changer grand-chose.
Alors, venons-en. Donc, je préfère, chers émoniteurs, vous dire que le livre, comme c'est une saga, on préfère que vous vraiment alliez découvrir ce livre et vous comprendrez que, ne serait-ce que par respect pour l'œuvre de l'auteur, on vous laisse découvrir certains chapitres. On vous en dit déjà suffisamment pour vous donner envie vraiment d'aller découvrir Le Temps des Orphelins aux éditions City. Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave?
Complètement.
Et cela ne nous permettra pas de déflorer certains chapitres.
Oui, complètement. Après, pour les gens qui sont férus de livres de développement personnel, il y a tout dedans, y compris quand Claude Rodin nous dit, ça apparaît aussi dans le roman, qu'il y a des événements de la vie contre lesquels on ne peut rien faire. C'est ce qu'on appelle en développement personnel l'acceptation, qui est un fondamental. Et j'ai envie de dire, on retrouve tout dans ce roman qui est pour moi vraiment un roman, j'ai envie de dire, initiatique.
Vous l'avez déjà dit, donc dans les veines des romans de Goethe.
Oui.
C'est juste un compliment énorme qu'on fait à Claude Rodin parce que ça fait penser à Wilhelm Meister, à l'aventure de Wilhelm Meister, de Goethe. Enfin, chers amis, vous connaissez tous les grands romans d'initiation du 19e siècle.
Oui, oui.
Claude, il y a deux, trois citations auxquelles vous faites penser votre livre que vous trouvez belles.
Deux, trois choses très importantes. Rachida Dati, qui était ministre de la Justice à l'époque, m'a reçu pour me mettre... Les insignes de commandeur, non pas parce que, encore une fois, c'était de la réussite, mais elle me disait « De vos parents, vous n'avez reçu qu'un nom et une paire de galoches. Comme vous l'avez écrit, vous pouvez être fier de ce que vous avez transmis en retour à vos enfants, on en parlait tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs poussé ce devoir de transmission en dehors de la cellule familiale. Je pense à l'enseignement que vous vous êtes attaché durant 15 ans au sein notamment de la prestigieuse HEC. » Mais elle ajoute, permettez-moi également d'invoquer votre engagement au sein de l'association caritative, où je me suis occupé pendant 20 ans d'une association de l'aide à l'enfance. Mais ce qui me paraît plus intéressant de me dire, c'est en vous voyant, j'ai une phrase très forte qui me vient à l'esprit, c'est celle de Paolo Coelho. Dans la cinquième montagne, il a écrit, l'homme est fait pour trahir son destin. Si ces mots ont un sens, alors assurément, vous êtes un grand homme. C'est joli.
Ouais, c'est un immense cadeau.
Oui. Oui.
À mon avis, c'est pas elle qui avait écrit ça. Elle a des belles plumes, mais en tout cas, ce qu'elle vous l'a dit à vous, c'est que la personne qui vous l'a écrit avait pensé à vous. Moi, je dirais que vous me faites penser à cette phrase du cardinal de Retz dans ses mémoires, qui avait dit la force des héros. Je pense que tout individu est un héros à sa manière. C'est de savoir distinguer l'extraordinaire de l'impossible. Et étant donné d'où vous êtes parti, Beaucoup de gens auraient pensé, parce que ça peut donner d'autres vies, n'est-ce pas, Irène Cazenave, une enfance pareille, ça peut donner d'autres vies. Hein,
ça
te
peut
dire.
Donner d'autres vies. Et là,
la vie de Claude Rodin est juste exceptionnelle par rapport à, sa, à son
elle, début. Elle est exceptionnelle, et ouais. Effectivement, dans le partage avec ses activités vis-à-vis de, bah, de tout ce que vous avez fait par rapport à la maltraitance des enfants. Et ce livre, c'est aussi un livre de partage. Donc vraiment, lisez-le, oui. Partagez-le.
Et justement, une
en conclusion,
donc,
Claude.
Ouais. Robert Laffont, pour mon premier récit autobiographique, ça rejoint un peu tout ça, il me disait: cher Claude, durant ma vie de cinéaste et d'éditeur, j'ai rencontré des politiques en mal de publicité, des malfrats repentis, des forçats, il venait de publier Papillon, une vie comme la vôtre, jamais.
C'est beau. On va vous remercier d'être passé par Dynamique Radio, Claude Rodin. C'était vraiment, vraiment, vraiment un honneur pour nous tous.
C'était un plaisir, Christophe. Merci aussi, Aran.
Et vous reviendrez pour le prochain ?
Oui, vous m'avez reçu d'une façon tout à fait adorable.
Et vous reviendrez pour le
merci.
Prochain ?
Oui.
Hein, pour celui qui va arriver sur le Roi Soleil, peut-être on viendra parler
l'ombre
du Roi Soleil.
Qui va sortir prochainement.
Eh bien, merci Irène Cazenave,
merci
à tous,
infiniment.
Merci encore. Je rappelle le livre de Claude Rodin, chers amis auditeurs, vraiment, allez le chercher dans toutes les bonnes librairies, aux éditions City, Le Temps des Orphelins, entre rêves et espoirs, le destin d'un enfant oublié dans la France d'après-guerre. Restez sur les émissions de Dynamique Radio. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.
Vivre heureux, vivons Cotier, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.